Chapitre 3. Mademoiselle Perdrix tut un moment, poursuivit le docteur Manuel, puis elle me dit : Voyons, mon bon monsieur, vous qui êtes si fin, si avisé, si spirituel, si sagace, vous qui devinez tout, avez-vous deviné quelle sorte d'homme ce pouvait être que ce bel Edwards ? Je n'en sais trop rien, lui répondis-je. Alors en ce cas, laissez-moi continuer mon récit. Savez-vous, docteur, vous qui prétendez tout savoir, quel est le meilleur moyen de se consoler d'un chagrin ? C'est d'en avoir un autre. Et ce fut précisément ce qui m'arriva. Ma vieille sorcière, que j'avais mise à la porte, jura que je ne lui paierais, et elle me joua un tour de sa façon. Avant de partir, elle donna du persil à Jaco, et Jaco en mourut. Et peu s'en fallut que moi-même je ne mourusse de désespoir. Cependant, comme je suis né raisonnable, je fis la réflexion qu'il en est des perroquets comme des rois. Jaco est mort, vive Jaco! Et un jour que je passais sur le quai du Louvre, j'entrai chez un marchand d'oiseaux où je trouvai ce que je cherchais. Ce marchand était un arabe, nous eûmes de la peine à nous entendre. Et pendant que nous discutions, pendant que le ciel se couvre et qu'un nuage crève, quand je sortis de la boutique, mon perroquet sous mon bras, il pleuvait à verse et pas un fiacre sur la place. Jugez de mon embarras. Mais comme par un miracle, une voiture fermée qui passait s'arrête. Un homme en sang sent et vient à moi. C'était lui. Oh, je vous assure que vous ne l'auriez pas reconnu, tant il avait l'air soumis, humble, respectueux, contrit, repentant. Malgré la pluie qui tombait, il restait nu-tête, l'échine pliée en deux, il osait à peine me regarder. De grâce, fit-il, acceptez ma voiture. Vous direz à mon cocher où il doit vous conduire. Il me sembla qu'il y avait un coup du ciel dans cette affaire et je lui répondis en riant. « Oh, mais cette fois, je dirai oui. » Je monte, il referme la portière, me salue encore, s'éloigne en reculons. Il me vint un scrupule. Je ne voulus pas que cet homme se mouillât et je lui dis doucement « Oh, grand Hugo, il y a place pour deux. » Je n'avais pas fini ma phrase qu'il s'était installé à côté de moi. Et nous voilà partis. Nous roulions depuis 5 minutes sans qu'il eût trouvé un mot à me dire. À côté, dans mon coin, il me regardait de travers, tortillant sa moustache entre ses doigts. Il avait grand-peur de me fâcher et la mine d'un chien qui a reçu le fouet et qui s'en souvient. Pour me donner une contenance, je caressais mon perroquet. Frappé d'un trait de lumière, le bel Edward s'écrie « Oh, si ce n'est le diable, c'est cet oiseau qui m'a mis en fuite l'autre soir. » Non, ce n'est pas lui, répondis-je, c'est un autre et il en est mort. La glace était rompue, la conversation s'engagea. Il me dit : Bon, vous voulez toujours ? Beaucoup, lui répliquai-je, et vous avouerez qu'il y a de quoi. Mais à qui donc pensiez-vous avoir affaire ? Me prenez-vous pour une sotte à qui l'on fait accroire tout ce qu'on veut et qui s'imagine qu'en se laissant aimer, elle sauvera la vie à deux hommes ? Il se redressa comme en sursaut et il devint très pâle, marmotta je ne sais quoi, commença deux phrases sans les finir. Enfin, il réussit à dire « Excusez-moi, ma lettre n'avait pas le sens commun. » Ce n'est pas ma faute, la fée qui change les princes en avait et m'a rendu fou. Et il ajouta, en me prenant les doigts, mais sans les serrer et toujours prêt à les lâcher, « Je suis un pauvre malade, vous êtes mon médecin. Qu'est-ce donc qu'un médecin qui refuse de guérir ses malades ?» Alors il était parti, il était lancé, il discourut tout d'une haleine pendant 10 minutes, passant sa main gauche sur son front ou la posant sur son cœur, mêlant de l'anglais à son français, du comique à son tragique et des vers à sa prose, Il y avait là-dedans à boire et à manger. Je n'en comprenais que le quart et je ne saurais vous répéter sa chanson, mais la musique était belle. Et Jaco, deux, que disait-il? Demandai-je à Mademoiselle Perdrix. Ah, ma foi, dit-elle, on avait oublié de lui apprendre à parler. Alors nous arrivons à ma porte, je descends. Le bel Édouard se ôte son chapeau et me dit: Me permettez-vous de venir demain, à la même heure, chercher des nouvelles de votre perroquet? Je lui répondis par un geste qui signifiait: Essayez, je ne réponds de rien. Effectivement, il se présenta le lendemain. Je n'y étais pas. Mais le surlendemain, vous y étiez, interrompis-je. Il y eut dans le monde un homme heureux de plus. Cette parole malencontreuse causa à Mademoiselle Perdrix un mouvement de violente indignation. Elle se leva brusquement, repoussa du pied sa chaise qu'elle renversa, et je crus que je ne saurais jamais la fin de son histoire. Je m'en vais, dit-elle, et vous ne me reverrez plus. La vérité est vraie, docteur. Vous êtes par trop impertinent. Le surlendemain. Ah, voilà ce que c'est que d'être médecin et d'exercer un métier qui oblige à avoir mauvaise compagnie. Vous ne croyez plus à la vertu des femmes? Il n'y a donc point de principe dans ce monde, point d'honnête fille. Me confondez-vous par hasard avec telle ou telle qu'on pourrait nommer? Ne savez-vous pas que j'ai été élevée au couvent, moi qui vous parle, que j'ai reçu l'éducation la plus soignée, la plus distinguée, que j'ai appris la grammaire, l'astronomie, tout ce qu'apprenaient les demoiselles du beau bon monde. Le surlendemain, mais pour qui me prenez-vous? Sachez pour votre gouverne que je l'ai fait languir, ce pauvre homme, pendant 8 grands jours. 8 grands jours, m'écriai-je. Oh, c'en est fait, je crois à la vertu. Je la calmai en lui disant beaucoup de bonnes paroles. Et pour la remettre tout à fait, je lui présentai un flacon de sels anglais qu'elle respira sans se faire prier. Les sels lui plurent et elle trouva le flacon à son goût. En effet, il était joli. Après m'avoir interrogé du regard, elle le coula dans sa poche. Puis elle consentit à sourire et quand j'eus relevé sa chaise où je la fis s'asseoir. Pendant un mois, il fut charmant, dit-elle. Et j'imagine que ce fut le plus heureux temps de ma vie. Il était doux, très doux, obéissant, plein de prévenances, de petites attentions, et il s'occupait assidûment de satisfaire toutes mes fantaisies. Je n'avais qu'un mot à dire, j'aurais fait marcher à quatre pattes. Il m'aimait follement, et c'est la bonne manière. Il n'y a que les fous qui sachent aimer. Il n'aurait tenu qu'à moi qu'il jetât son argent par les fenêtres et qu'il vit bientôt le fond de sa caisse. Je soupçonne qu'elle n'était pas bien lourde. Heureusement pour lui, l'honnête fille à qui il avait affaire ne se fait pas gloire, comme la grande Mathilde, de ruiner un homme, et elle a toujours fermé, préféré les petits plaisirs aux grands, et les petits plaisirs on peut en vouloir tant qu'on peut avec 3 000 francs par mois. Mettons en quatre, sans compter les robes, bien entendu. Bref, il était content, ravi de son acquisition, et lui-même plaisait chaque jour davantage. Il est aussi agréable pour une femme de gouverner à la baguette un homme qui lui a fait peur que de posséder un gros chien qui aboie aux passants, qu'elle pourrait battre comme plâtre sans qu'il découvrît seulement le bout de ses crocs. Mais je n'avais qu'un chagrin. Le bel Édouard, c'était toujours pour moi l'inconnu, impossible de savoir qui il était. Quand je le questionnais, tantôt il se retranchait dans un obstiné silence, tantôt il me faisait des contes à dormir debout. Un jour il me donna sa parole d'honneur la plus sacrée, qu'il était un prince persécuté par sa famille, qu'il avait résolu de vivre caché jusqu'à la mort de son père, et qu'alors il revendiquerait ses droits et réclamerait sa couronne, qui pour le moment était en gage chez les Juifs. Il me croyait plus oiseau que je ne suis. On m'a appris, dès ma plus tendre enfance, Au couvent, dis-je. Oui, au couvent. Or, on m'a appris que tous les princes sont russes ou italiens et que les juifs ne leur prêtent pas deux sous sur leur couronne. Et une autre chose que je ne savais pas encore, mais que j'ai apprise depuis, c'est que les vrais princes, ceux qui doivent régner, gesticulent peu et que dans toutes les affaires de ce monde, ils vont droit au fait. Or, dans ces jours de belle humeur, le bel Édouard se trouvait un plaisir particulier à me débiter de longues tirades de vers en anglais, en les accompagnant de grands gestes. C'est égal, les gestes ont leur charme, et les siens me plaisaient. « J'y suis enfin, m'écriai-je. Le bel Édouard, c'était un prince de théâtre en vacances, qui se servait de vous pour s'entretenir la main. » Elle ne daigna pas me répondre. Mais je vous répète, poursuivit-elle, que pendant un mois il fut charmant. Et pourtant ma mère ne l'aimait pas. Elle me disait cet homme-là me déplaît. Mais je lui disais pourquoi te déplaît-il? Et elle me répondait je ne sais pas pourquoi, mais il me déplaît. Il a dans l'œil quelque chose qui ne me va pas. Tu verras que c'est un mauvais génie qui te jouera quelque tour. Tu ferais bien de t'en débarrasser. Nous nous querellions là-dessus. Vous savez que nous nous querellions souvent quelquefois. Je l'aime bien, oui, elle m'aime bien, mais elle a une si drôle de caractère. Il faut que tout se passe à son idée, à sa mode. Aussi ne vivons-nous pas ensemble. Oh, docteur, je n'ai rien à me reprocher. Je lui ai souffert et souvent proposé de la loger, j'ai de la place. Mais elle prétend qu'elle aime à vivre seule, et s'il n'empêche pas d'être toujours fourré chez moi, trouvant à redire à ceci, à cela. Ainsi donc, pendant un mois, il fut charmant, interrompis-je avec un peu d'impatience. Mademoiselle Béatrix me regarda d'un air de reproche, et me montrant du doigt la pendule, « Il n'est encore que minuit trois quarts. Avez-vous quelque affaire cette nuit ?»« Et vous-même, ma chère ?» lui demandai-je. « Vous ne vous inquiétez pas de moi, il n'est pas à Paris. »« Mais vraiment, vous avez tort de ne pas m'écouter. Vous ne vous doutez pas de la surprise que je vous ménage. »«
Va pour la surprise, lui dis-je, mais tâchons d'y arriver. Si aimable que soit la compagnie, je n'ai jamais aimé rester en chemin. »
Patience, reprit-elle, nous arrivons. Un soir, qu'il était venu me chercher au théâtre, il me représenta que nous étions au premier printemps, que l'air était tiède, que la lune éclairait, et qu'il serait charmant de passer la nuit à courir les bois. Son intention me parut bonne et nous partîmes. Tantôt en voiture, tantôt à pied, nous cheminâmes jusqu'au matin. Où nous allions, où nous étions, je n'en avais pas la moindre idée. Je me souviens seulement qu'il y avait des endroits qui sentaient la violette. Je me souviens aussi que, par instants, j'avais peur. Je croyais apercevoir au clair de la lune des fantômes blancs qui me regardaient. Édouard riait à gorge déployée de mes épouvantes. Il m'expliquait que les bouleaux sont des bouleaux. Oui, vrai, il avait raison. Et au petit jour, je m'endormis. À mon réveil, je me reconnus. Nous étions à Villebon et nous jouâmes au palais en attendant le déjeuner. Le couvert fut mis dans un pavillon où je n'ai jamais voulu retourner depuis. Je lui garde rancune, quoi qu'il soit joli. Je pris donc 5 minutes pour arranger mes cheveux, qui étaient fort dérangés. Quand je rejoignis Edwards, il venait de déplier un grand journal anglais qu'il avait apporté dans sa poche. Il y passe les yeux, il pâlit, il s'écrie en serrant les poings. « Oh, le misérable, je les reconnais bien là !»«
Qu'ont-il fait ?» lui demandai-je.
Il me répondit par un haussement d'épaule, se remit à lire, et de nouveau il serra les poings.
« Oh bien, lui dis-je, tu m'ennuies et nous sommes ici pour nous amuser. De quoi s'agit-il? À qui en as-tu? Laisse-moi ces gens tranquilles, je ne les connais pas. Ce sont d'affreux scélérats, voilà qui est dit, mais qu'est-ce que ça te fait? Je lui arrachai son journal des mains, je le roulai en pelote et je le jetai bien loin dans le gazon. Il fut sur le point de se fâcher. Il me montra les dents, mais il se ravisa. Il chargea le visage et il me dit « Ma parole d'honneur, tu as raison. Qu'ils fassent ce qui leur plaira, qu'est-ce que ça me fait ?»«
Rien du tout, lui dis-je. »
« Ben non, absolument rien. Oui, je t'adore, j'ai une faim de loup, et nous allons déjeuner. » Il se pencha vers moi, me regarda fixement à travers la table. « Tu as les plus jolis cheveux bruns, la plus jolie bouche du monde, et les cheveux bruns comme cette bouche sont à moi tout seul. Et au coin de la joue, tu as une fossette, elle est aussi à moi. » Et il ajouta, en remplissant son verre, « Je crois à la fossette de Rose Perdrix et je crois au cœur de la fée Mémimélo. Et voilà tout, quant au reste, je m'en fous. Ce n'est rien du tout que le reste, rien du tout. » Et il se mit à manger de bon appétit, à boire comme un Polonais. Je cherchais à le modérer. Je savais par l'expérience qu'il avait le vin colère. J'y perdis mes peines. Il avait juré de se griser, car il disait de temps à autre, « Bidou, encore une bouteille, j'y penserai plus. » Mais à quoi donc? À rien. C'était sans doute à ces misérables qu'il ne voulait plus penser, et il les oublia tout à fait. Sa gaieté devenait bruyante, il ne déparlait pas, il débitait mille extravagances. Il finit par s'en prendre aux verres, aux assiettes, il cassa tout, parce que, disait-il, personne n'était digne de manger dans une assiette où avait mangé Rose Perdrix, ni de boire dans un verre qu'avait touché ses lèvres divines. C'est bien divine qu'il disait, et ce n'est pas moi qui le lui a fait dire. Alors je m'amusais d'abord de ses folies, mais pas longtemps. J'aime la gaieté, mais je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas non plus qu'on dépense bêtement son argent. Et vous pensez bien que la vaisselle brisée figura sur la carte. Ce que je déteste surtout, ce sont les disputes, et dans l'ivresse, Edwards avait une chienne de tête qui n'entendait plus rien. Alors il se prit de querelle avec le garçon qui nous servait, avec l'aubergiste, avec les paysans, avec sa chaise, avec le vent, avec tout le monde. Je vis le moment, il nous attirait une mauvaise affaire. Je m'emparais de sa canne, je le menaçai de lui en cingler la figure. Il se calma, paya l'addition, et nous repartîmes par Paris en nous boudant un peu, mais en chemin nous fîmes la paix. Je le quittai pour aller au théâtre, et je le retrouvai chez moi vers minuit. Il était tout à fait dégrisé. Par malheur, il avait réussi à se procurer de nouveau ce maudit journal anglais que je lui avais arraché les mains à Villebon. Il interrompit sa lecture pour me crier. Mais oui, ce sont des misérables, et le plus misérable de tous, c'est lui, c'est lui. Oh, je ne veux pas le nommer. Puis, se frappant le front de ses deux poings, ah, si tu savais, ma chère, ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai aucune envie de le savoir, lui répondis-je avec humeur. Je tombe de sommeil. Mais moi aussi, me répliqua-t-il du plus grand sans froid. Cela dit, il s'assit sur le bras d'un fauteuil et se remit à lire son journal. Il pouvait être 2 heures quand je fus réveillé par le bruit que firent subitement des éclats de verre qui tombaient sur le plancher. Je me mis sur mon séant. Edwards avait laissé filer la lampe et le verre venait de sauter. Il ne paraissait pas prêter la moindre attention à cet accident. Au moment où je rouvris les yeux, il était assis au pied de mon lit, raide comme un piquet, les bras croisés sur sa poitrine, regardant d'un œil fixe quelque chose ou quelqu'un que je ne voyais pas. Alors je lui criai « Et la lampe ?» Il sentit comme une secousse dans tout son corps et se retourna vivement de mon côté. Il avait l'air d'un homme qui sort d'un puits où il a passé 24 heures et qui est tout étonné de revoir le soleil. Il se leva, sourit, vint à moi, posa ses deux doigts sur mes paupières pour les refermer, m'appliqua un grand baiser sur le front et partit à pas de loup. Je ne le revis pas le lendemain. Il m'écrivit un mot pour m'annoncer que deux de ses plus chers amis, de ses amis d'enfance, étaient arrivés à Paris et qu'ils se croyaient tenus en conscience de leur en faire les honneurs et qu'ils craignaient de n'avoir pas un moment à lui. Je n'en fus pas fâché. Depuis deux jours, je me sentais un peu refroidi pour lui. Son incartade à Villebon, la querelle qu'il avait cherchée à l'aubergiste, l'effet bizarre que faisait sur lui la lecture des journaux, l'incident de la lampe, cet homme assis au pied de mon lit, le regard perdu dans les espaces, tout cela me tourmentait. Le bel Edward savait pour sûr l'humeur quinteuse et une fêlure dans le cerveau. Je le soupçonnais même d'être un peu somnambule. En tout cas, il me semblait qu'il y avait du louche dans son affaire. Les boîtes à double fond ne m'ont jamais plu. J'aime à savoir ce que j'ai dans ma poche. Alors je gardais pour moi mes petites réflexions. Je n'en soufflais mot à ma mère. Elle aurait triomphé, si agréable de s'entendre dire. « Tu n'as pas voulu me croire, je t'avais prévenu, mais tu n'en fais jamais qu'à ta tête. » Plusieurs jours se passèrent et il ne parut pas. Je commençais à croire qu'il avait fait ses réflexions lui aussi et que c'était fini, que je ne le reverrais plus. Mais je me trompais. À quelques soirs de là, en revenant du théâtre, je le trouvais installé près de ma cheminée où il avait fait grand feu. Il m'attendait avec une impatience fiévreuse. Il était plus amoureux que jamais. Dès qu'il m'aperçut, « Oh, la voilà donc !» Puis il s'accroupit à mes pieds et il me déclara mille fois qu'il n'avait jamais rencontré de fille, de femme, de chatte, ni aucune créature plus adorable que moi, ni sur la terre, ni dans la lune, ni dans aucune des planètes qu'il avait visitées. Il ne se laissait pas de me considérer. Il semblait que notre connaissance fût toute neuve et qu'il n'eût pas encore aperçu jusqu'à ce jour. Il venait de me découvrir là, tout à coup, sans y penser, à l'un des tournants du chemin, et sa découverte l'enchantait, le mettait hors de lui, et il me répétait de nouveau que j'étais adorable. Oh, il avait ce soir-là une petite voix flûtée, et de temps à autre, il lui venait dans les yeux des larmes grosses comme des noisettes qui roulaient lentement le long de ses joues. En vérité, je croyais rêver, et je me demandais à qui il en avait. J'eus la fâcheuse idée de lui parler de ses chers amis, de ses amis d'enfance, et je voulus savoir ce qu'il avait inventé pour leur faire fête. Voilà un homme qui change aussitôt du tout au tout. Son visage s'assombrit, son regard devient froid comme glace, il lâche mes deux mains, se remet sur ses pieds et va s'adosser à la cheminée. Puis il me dit, en examinant ses ongles, que ses amis n'étaient pas ceci, n'étaient pas cela, que ses amis n'étaient pas des gens à qui l'on fit fête, que c'étaient des hommes d'affaires, qu'il venait d'en inventer une qui promettait de rapporter beaucoup, de la gloire à vendre, des monceaux d'or, mais qu'elle était fort chanceuse, qu'il l'avait pressé d'y entrer et de la prendre à son compte et qu'il avait réussi à toutes leurs supplications. « Ils veulent pas admettre que ce soit mon dernier mot, » ajouta-t-il, « et ils m'ont donné une semaine pour réfléchir. Mais quand je réfléchirai deux ans, mais pour qui me prennent-ils ? Oh, j'ai dit non, c'est non. Je ne les reverrai pas. Je te dis, Rose, que je ne veux plus les revoir. Et tiens, pendant que j'y pense, « donne-moi une plume, du papier, je veux leur écrire moi-même, et à l'instant que cette affaire est une vilaine affaire, que je les somme de ne m'en plus parler et qu'ils aillent au diable. Mais tu me donneras des distractions, il faut que je sois seul pour écrire, ce sera bientôt fait, je te demande que 5 minutes. » Et reprenant sa petite voix douce, « Et puis sais-tu, nous ferons du punch, J'en veux boire 10 verres à ta santé pour te remercier d'avoir eu un jour la bonne pensée de venir au monde. Il n'y a que toi pour en avoir de pareils. Quand tu es né, il y avait une étoile qui dansait. C'est Shakespeare qui me l'a dit. » Et là-dessus, il passa dans la pièce voisine, où il fut plus de 5 minutes à écrire sa lettre, car j'eus le temps de prendre un livre en attendant et de m'endormir. Je dois avouer qu'en général, c'est l'effet que produit sur moi la lecture. Cette fois encore, je fus réveillé en sursaut. Le verre de la lampe n'avait pas sauté, mais il y avait dans la pièce voisine un homme qui se promenait à grands pas et qui parlait tout haut. Mais à qui parlait-il ? Je m'approchai de la porte qu'il avait laissée entrouverte, et je m'assurai qu'il était tout seul. Mais à qui parlait-il donc ? Il était blême, livide, la sueur avait collé ses cheveux à ses tempes. Il roulait des yeux terribles, il avait l'air d'un spectre. Je le regardais, je l'écoutais, mais je ne pouvais comprendre un mot de son discours à cela près qu'il répétait par intervalles « I want » et que j'avais appris assez d'anglais pour savoir que cela veut dire « Non, je ne veux pas ». Et sa figure était si effrayante que mon premier mouvement fut de refermer bien vite la porte et de la barricader. Cependant, j'eus honte d'être pas brave. Alors je pris mon courage à deux mains, j'avançai d'un pas et je criai. « Edward, pour l'amour de Dieu, avec qui vous disputez-vous ? » Alors il me répondit d'une voix tonnante. « Mais avec qui serait-ce ? Et parbleu, avec elle ! » !»« Mais avec elle, lui dis-je, mais avec qui donc ?» Il me regardait sans me voir, il m'aperçut enfin, il étendit le bras et d'un ton caverneux. « Mais ne la vois-tu pas ?» Je courus chercher un verre d'eau, je lui en aspergeai le visage. Il se laissa tomber sur une chaise, partit d'un éclat de rire et s'écria « Oh merci, je ne la vois plus !» J'allai m'asseoir auprès de lui, il promena sa main dans mes cheveux en disant « Oh, ma parole, j'ai bien cru que j'en deviendrais fou !»« Mais c'est tout fait, lui dis-je depuis longtemps, mais tu me diras le nom de cette femme ?» Il se mit à rire de nouveau. « Quelle plaisanterie ! Ces femmes-là n'ont point de nom !»« Mais est-ce une fille ? Est-ce une femme du monde ?» « Une vraie scélérate, répliqua-t-il. Un jour, elle est entrée chez moi, elle me fit peur. Je l'ai renvoyée, chassée. Elle est revenue, elle m'a dit. Je te tiens, tu es à moi, je ne te lâcherai plus. Alors je suis parti, j'ai détalé, j'ai mis entre nous 1000 lieues d'eau salée. Elle a couru après moi, elle m'a rattrapé tout à l'heure, elle était ici. » « Mais, oh, te voilà, elle a disparu, je suis sauvé. » « Quelle figure a-t-elle, cette femme qui n'a pas de nom ?» lui demandai-je encore. « Mais elle te ressemble, ma petite, autant qu'une fille de l'enfer peut ressembler à une fille du ciel. Elle est aussi laide, aussi difforme que tu es jolie, et tes colères sont moins terribles que les sourires. Oh, la vilaine femme !» Ses baisers tuent le sommeil et font blanchir les cheveux d'un homme en 3 nuits. C'est un miracle que les miens ne soient pas blancs. Bon, mais ne parlons plus d'elle, je t'en conjure, ne parlons plus d'elle. C'est une affaire faite, je ne la reverrai plus. » Et s'emparant de mes deux bras, il les enlaça autour de sa taille en disant « Ce que garde Rose Perdrix est bien gardé. « Oh, je suis ton prisonnier, ma très chère, et je veux vivre, je veux mourir dans ma prison. Buvons du punch !»
Chapitre 4. Mademoiselle Perdrix fit encore une pause, continua le docteur Manuel, puis elle me regarda avec un sourire qu'elle cherchait à rendre mystérieux. Mais elle n'a pas le don du mystère, cela lui manque, et voilà pourquoi je crains pour son avenir. Il y a du mystère dans tous les grands talents. « Docteur, me dit-elle, Savez-vous qui était cet homme ?»«
Ben, je vous l'ai dit, ma chère, lui répondis-je, quelque comédien en congé qui repassait ses rôles. Et je regrette pour vous que son répertoire manqua à ce point de gaieté. » Elle me fit la moue. Elle me montra les cornes.
« Êtes-vous comme moi ?» reprit-elle. « Quand j'ai peur, je me sauve. Quand je me décide, très vite. Et quand les hommes ne me conviennent pas ou ne me conviennent plus... Enfin, pourtant, j'en touchais deux mots à ma mère. C'est pour le coup qu'elle me dit... Oui ou non, t'avais-je prévenu? Tu veux jamais me croire? J'étais pour l'autre, moi. L'autre est un galant homme, un homme sérieux, un homme rangé. Enfin, tu avoues que j'avais raison. Mieux vaut tard que jamais. Il ne reste plus qu'à te sauver bien vite. Mais sauve-toi donc. Alors je fis ce qu'elle me disait, je me sauvais. Vraiment, les chemins de fer sont une belle invention. On a bientôt fait de mettre ordre à ces petites affaires. Et votre servante, cherchez, il n'y a plus personne. 16 heures plus tard, j'étais commodément installé dans un beau wagon coupé où je ne fis qu'un somme jusqu'à Lyon. En me réveillant, je poussai un profond soupir de délivrance. Cependant, une inquiétude me prit. Peut-être l'homme qui me faisait peur avait-il eu vent de ma fuite? Peut-être courait-il à toutes jambes après le train. J'avançai la tête à la portière, je poussai un second soupir de soulagement, et je me rendormis. Je fis le plus beau rêve du monde. Je croyais voir mon directeur qui s'arrachait les cheveux. Je me flattais de l'avoir plongé dans un cruel embarras et qu'il n'y avait pas moyen de jouer sans moi le prince toqué. J'étais bien jeune. Une fée, cela se remplace aussi aisément qu'un perroquet. Il faut vous dire que ce vieux Roquentin avait eu de grands torts à mon égard. Il m'avait solennellement promis un rôle dans la nouvelle pièce qu'on répétait, et il avait eu l'infamie de le donner à la grande Mathilde. J'avais juré d'en tirer vengeance. Oh oui, j'étais bien jeune. Je ne prenais pas encore la vie au sérieux. Je ne savais pas ce qu'il en coûte d'avoir la tête et le pied trop légers, et qu'il suffit d'une escapade pour compromettre toute une carrière. Après cela, il faut vous dire aussi qu'une superbe occasion s'offrait à moi de voir l'Italie. Dites-moi tout d'un temps que c'était, repartis-je à Mademoiselle Perdri. Mais de quoi voulez-vous, docteur? Vous êtes curieux, beaucoup trop curieux. Et après avoir rêvé un instant, ce que c'est que de nous, et à quoi tient le cœur d'une femme? Je vous jure que cette villa était un amour de villa, plantée au bord d'un amour de lac. Figurez-vous que de mon balcon, je pouvais pêcher des truites à la ligne. Pendant 2 semaines, je fus heureuse, parfaitement heureuse. Oh, je me croyais en paradis. Mais un matin, je m'aperçus que mon paradis m'ennuyait, que mon bonheur sonnait creux, qu'il me manquait quelque chose, que le charme de la vie est d'avoir à soi un beau fou qui parle tout seul en gesticulant. Bref, je dis à l'autre, « Mon cher, votre villa est charmante, mais on s'y ennuie à crever. » Et je repartis bien vite pour Paris, où à peine fus-je armé, arrivé, je courus au grand hôtel. Le numéro 107 est-il chez lui? Ils sont à déjeuner. Qu'est-ce à dire? Ils sont donc plusieurs à présent? Il y a 3 semaines, il n'était qu'un. Je dus me rendre à la vérité. Le bel Edwards venait de partir et une famille avait pris sa place. Oh, j'en aurais fait une maladie si je pouvais être sérieusement malade. Mais cela n'est pas dans mes moyens. Et puisqu'on fait toujours par se contrôler, ne mieux n'est-il pas de commencer par là? 1 mois après, je reçus d'Angleterre une lettre en anglais que j'ai eu la sottise de brûler. Je me l'étais fait traduire et j'avais apprise par cœur. La voici, mot pour mot. Je vous ai dit que j'ai bonne mémoire. Pendant plus de 15 jours, j'ai passé chaque soir et chaque matin devant ta porte. Je ne pouvais croire à mon malheur, c'est à peine si j'y crois maintenant. Soit que ta volonté du destin s'accomplisse. Tu lui avais pris son ouvrier, tu le lui as rendu. Tout est pour le mieux, je ne te reproche rien. C'était ma lâcheté qui t'aimait. Est-ce bien possible que tu n'aies plus voulu de moi? Et pour qui m'as-tu trahi? Tu m'as sacrifié à quelque pleutre, à quelque imbécile titré. Je crois l'avoir rencontré un soir dans les coulisses de ton théâtre. Tu en seras bientôt dégrisée, ah, pauvre fille. Le vrai prince, c'était moi, et tu me regretteras. Mais il sera trop tard. Je te le répète, tout est pour le mieux. En me rendant ma liberté, tu as voulu sauver ma gloire, et que le monde parla du bel Edwards. Il en parlera, ma chère. Et alors, tu connaîtras mon vrai nom. Écoute-moi. Le jour où tu apprendras qu'un grand coup vient d'être frappé et que la terre a frémi d'épouvante, dis hardiment, l'homme qui a fait cela, c'est lui. Et en vérité, si ce n'était moi, qui serait-ce? L'idée que j'ai dans la tête, d'autres l'ont eue, ma chère Rosette. Mais la main leur tremble, la mienne ne tremblera point, et ce que je ferai, nul autre ne pourra le faire à ma place. Je ne sais pas encore ce que je dirai en frappant. Sûrement je dirai quelque chose, ce sera vraiment le mot de la fin, et ce mot traversera les siècles. Te souviens-tu de Villebon, de cette nuit passée dans les bois? Le soleil était déjà levé et tu dormais encore dans la voiture, car Dieu sait si tu aimes à dormir. Je te réveillais, je t'emportais dans mes bras, je t'assis au pied d'un vieux chêne. Il y avait là des violettes cachées dans la mousse, l'air en était comme embaumé. Pense quelquefois à ces violettes. J'y penserai, moi, le jour de ma mort, et je penserai aussi à cette fossette que tu as au coin de la bouche. J'ai une grâce à te demander. Envoie à l'adresse ci-jointe une boucle de tes cheveux. Ils ne me quitteront pas, et quelque chose de toi sera mêlé à mes derniers jours. Après ma mort, on les trouvera sur mon cœur et on se demandera qui me les avait donnés. Sois sûr que les journaux en parleront. Ces bavards parlent de tout. Copie bien exactement l'adresse et expédie-moi sans plus tarder ton petit paquet. Elle y consent, elle, car elle n'est plus jalouse de toi. Elle sait que c'est fini, qu'elle m'a repris à jamais, qu'elle me tient, que je suis à elle corps et âme, et qu'avant peu de jours j'irai où elle m'envoie. Tu veux boire du sang, vieille sorcière? Paix, mais tu en boiras. Dieu, que ces violettes sentaient bon, et que ces cheveux bruns étaient doux à la main. N'en sois pas trop bavard. Il faut qu'il en ait assez pour que je puisse les pétrir dans mes doigts. Je fermerai les yeux et je croirai que tu es là. Docteur, après avoir lu cette lettre, je fis ce que vous auriez fait à ma place. Je me coupai une grande boucle de cheveux. Tenez, on voit encore l'endroit. Ils n'ont pas tout à fait fini de repousser. Il a dû les recevoir. Je m'étais beaucoup appliqué en copiant l'adresse. Et depuis, il s'est écoulé près de 2 années, et je dois me rendre cette justice que pendant la première, j'ai pensé au bel Edwards, une fois au moins chaque semaine, mais pendant la seconde, je n'y ai guère pensé qu'une fois par trimestre. Dame, j'étais devenue une fille raisonnable, très raisonnable. Vous savez ce que tout le monde dit de moi, il faut bien que l'expérience serve. Ma petite fugue en Italie m'avait fait beaucoup de tort. Les directeurs refusaient de me prendre au sérieux. Impossible de trouver un engagement. Mais à force de me remuer, j'ai réussi à me refaire une situation. La féerie n'est pas mon genre. J'étais né pour l'opérette. Je n'ai pas besoin de vous dire où j'en suis maintenant. Me voilà tout à fait lancé et même classé. Croiriez-vous qu'ils veulent absolument m'avoir à Saint-Pétersbourg? Vous ne leur ôterez pas cela de la tête. Ils me font des propositions superbes.
Vrai, je suis bien perplexe à ce sujet, et bien aise de vous consulter. À l'entendre, on lui offrait 60 000 francs, 4 mois de congé, un palais impérial, et pour le moins un grand-duc. Cette extravagante ne tarissait pas sur cette matière. Après avoir fini, elle recommençait. Par le moment, elle me regardait du coin de l'œil, je comprenais ce que cela voulait dire. Elle mourait d'envie que je l'interrompisse pour lui demander la fin de son histoire. Je ne voulus pas lui faire ce plaisir, et ce fut elle qui perdit patience et s'interrompit elle-même, en s'écriant avec dépit. Quel singulier homme vous faites, docteur! Tantôt vous êtes trop curieux, tantôt vous ne l'êtes pas assez. Je vous ai dit qu'il m'était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Vous ne voulez donc pas savoir ce que c'est? Gageons, lui dis-je, que vous avez revu sur le boulevard le bel Edwards, il vous a juré qu'il n'est plus fou, et vous voilà rapatrié. Oh, le pauvre garçon, fit-elle en s'attendrissant tout à coup. Autant du moins qu'il lui ait donné de s'attendrir. Oui, vous dites vrai. Il y a quelques heures, je l'ai rencontré sur le boulevard, dans la vitrine d'un marchand de photographies. Je l'ai reconnu sur le champ et le cœur me battait. Ses yeux, son front, sa moustache, ses cheveux frisés, sa main passée dans l'échancrure de son gilet. C'était lui, vous dis-je, lui tout entier. Je me précipite comme un coup de vent dans le magasin et je dis au marchand: d'où avez-vous cette photographie? Il me répond d'un air étonné: nous l'avons reçue tantôt de New York. Ah, c'est donc le portrait d'un homme célèbre? Très célèbre, mon enfant. Et il ajouta: mais m'écoutez-vous, docteur? Il ajouta: c'est le portrait de John Wilkes Booth, l'assassin du président Lincoln. Ah, ces mots, Mademoiselle Perdrix, après m'avoir considéré fixement pour jouir de ma surprise, se leva et se mit à arpenter la chambre, la tête haute, les joues enflammées, la narine frémissante. Ses pieds ne touchaient pas la terre, on eût dit qu'elle allait s'envoler. Par intervalles, elle se retournait de mon côté, et du haut de sa nuée, elle abaissait sur moi un regard superbe. C'était une divinité contemplant un ciron. Je l'arrêtai au passage, je lui secouai énergiquement les deux bras, et je lui dis: malheureuse, mais qu'as-tu fait? Ce fou avait été placé sous ta garde. Il ne tenait qu'à toi de le défendre contre elle, de soustraire aux obsessions de cette fille de l'enfer, de cette horrible idée fixe dont il était tourmenté. Mais tu ne sais pas aimer, tu as eu peur. Tu as lâché ton prisonnier, tu as déserté ton poste et ta mission. Tu es parti pour l'Italie avec je ne sais quel prince de rencontre, et grâce à toi, elle a repris sa proie. Oh, destinée à la fois tragique et ridicule! Mais si Mademoiselle Rose Perdrix avait eu la tête et le pied moins léger, un peu plus de cœur ou un peu plus de courage, le président Lincoln vivrait encore! Elle ne m'écoutait point. Elle se dégagea, se remit à marcher à grands pas, transportée comme possédée par son aventure et par sa gloire. Elle se trouvait mêlée à un grand événement. Elle avait été aimée d'un homme dont l'exécrable mémoire vivra toujours. Son air de triomphe me parut soudainement déplaisant. Et je lui dis d'un ton sardonique: ma foi, ma belle, puisque vous voulez qu'on se mette à votre place, je vous le dis franchement, à votre place, je ne serais pas si fier. Car enfin, est-ce une chose bien réjouissante et bien glorieuse d'avoir été la maîtresse d'un homme qui a été pendu? Elle se retourna vivement, revint sur moi comme un trait, l'œil courroucé et terrible. Je crus vraiment qu'elle m'allait dévorer. Mais vous ne savez donc pas l'histoire, docteur? Je me la suis fait conter tout à l'heure dans le plus grand détail. Lui pendu, mais pensez-vous, est-ce qu'on peint un homme comme lui ? Apprenez, je vous prie, qu'il s'était réfugié dans une grange où la police le cerna, et comme il refusait d'en sortir et de se rendre en discrétion, on y mit le feu. À travers une palissade, on tira sur lui plus de 20 coups de carabine. Ah, lui pendu ! Mais taisez-vous donc ! John Wilkes Booth est mort, les armes à la main, en se défendant comme un héros. Je la contemplais avec stupeur et je m'écriais. Ah ! On croit connaître les femmes et nous étonnerons toujours. Où donc la gloire va-t-elle se nicher ? Cela dit, le docteur Menuer reprit sa canne et son chapeau. Il se dirigeait vers la porte quand quelqu'un lui cria. « Votre histoire est-elle bien vraie ?» Il répondit. « Je vous ai répété fidèlement ce qui m'a été conté l'autre soir. Si vous ne me croyez pas, vous vous ferez une mauvaise affaire avec Mademoiselle Perdrix. »